Le journal est présenté par Florence Turm.
Bonsoir. En France, une fin d'année 2018 imprégnée par l'affaire Benalla et marquée par le mouvement des Gilets jaunes. La sécurité s'organise pour le réveillon. L'Élysée dément les dernières affirmations de l'ancien conseiller du président. Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole dans un contexte troublé. Nous y reviendrons avec Steven Goyer et Anne Fauquemberg. Une allocution empreinte de fermeté du côté de l'Allemagne. La chancelière Angela Merkel entend prendre davantage de responsabilités à l'échelle mondiale pour soutenir une coopération internationale mise à l'épreuve. Correspondance à Berlin de Ludovic Piétenu. L'état d'urgence décrété dans plusieurs provinces du Burkina Faso. L'armée ne parvient plus à endiguer les attaques djihadistes qui s'étendent désormais aux frontières du Togo et du Bénin. Explication de Fiona Mogadam. L'euro 20 ans après et un bilan mitigé pour la monnaie commune qui peine encore à s'imposer face à la suprématie du dollar sur le marché mondial. Dossier dans ce journal signé Marie Viennot. Et puis la bonne santé du cinéma français à l'affiche. Les comédies populaires ont réussi à damer le pion aux indestructibles américains, nous dira Cécile de Kervasdoué. En cette fin d'année 2018, ce qu'il est désormais convenu d'appeler l'affaire Benalla ressemble plus que jamais à un chassé-croisé d'informations contradictoires, aussitôt énoncées par les uns, aussitôt démenties par les autres. En témoigne encore la séquence du jour avec l'interview livrée à Mediapart par l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla affirme notamment être resté en contact avec le président de la République après son licenciement l'été dernier. Et cet après-midi, l'Élysée dénonce un faisceau de contre-vérité et d'approximation, Steven Goyer.
Et Alexandre Benalla se venge de son licenciement pour faute grave. Voilà ce qu'explique l'Élysée cet après-midi. Au-delà du bras de fer, on assiste depuis quelques jours à un curieux ballet de version contre version où chacun livre sa vérité au gré de ce que dévoile le camp d'en face. Dans Mediapart, Alexandre Benalla explique être resté en contact après son licenciement avec l'Élysée et même avec le président de la République, avec preuves conservées sur son téléphone portable. Ça, ils ne pourront jamais le nier, explique-t-il. Et pourtant, le palais présidentiel réplique en affirmant n'avoir été tenu au courant de ses déplacements qu'après les récentes révélations sur son voyage au Tchad. Alexandre Benalla explique aussi avoir laissé les deux passeports diplomatiques à son bureau cet été, avant qu'il ne lui soit à nouveau remis au mois d'octobre avec quelques affaires restées sur place. Faux, répond là encore le château, les passeports n'auraient jamais été en sa possession. Le Quai d'Orsay, lui aussi, monte au créneau cet après-midi dans un communiqué intitulé « Mise au point du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères », document qui évoque des propos faux et fantaisistes, en cause notamment l'utilisation des fameux passeports diplomatiques. À Alexandre Benalla, qui affirmait que les ambassades de France devaient être au courant de ces voyages, le Quai d'Orsay répond qu'aucun système de ce type n'existe à l'heure actuelle et que donc aucune information n'est remontée sur ces déplacements. Le ministère rappelle également avoir adressé plusieurs courriers recommandés à l'intéressé pour récupérer les passeports. Demande restée lettre morte, des versions contradictoires qui s'affronteront désormais aussi devant la justice avec l'ouverture de l'enquête préliminaire samedi par le parquet de Paris, notamment pour abus de confiance et usage sans droit d'un document justificatif d'une qualité professionnelle.
Et c'est dans ce contexte troublé par cette controverse, troublé aussi par le mouvement des Gilets jaunes, qu'Emmanuel Macron va prendre la parole dans un peu moins de 2 heures pour les traditionnels vœux du nouvel an. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
Un président affaibli dont la cote de confiance continue de s'effriter dans les derniers sondages et dont le discours apparaît comme un défi aux multiples facettes, apaiser les colères, sans toutefois passer par de nouvelles annonces et relancer son programme de réforme.
Oui, une allocution dont on a à cette heure peu de détails, si ce n'est qu'elle devrait durer une quinzaine de minutes. Elle sera regardée par les Gilets jaunes, dont une partie a appelé à manifester ce soir. Kamel Amriou, par exemple, fait partie du mouvement citoyen des Gilets jaunes. Il était notre invité dans le journal de midi, un Gilet jaune déçu par les mesures d'urgence votées avant la trêve de Noël.
Le compte n'y est pas, les choses qui ont été dites à une époque ne sont pas tenues. Je crois qu'il faut être dans la rue, partout autour des ronds-points, dans les rues, dans les places. C'est pour ça que nous, ce soir, on convie l'ensemble de la population, mais avec dans un caractère festif, pacifique, à être sur le rond-point des Champs-Élysées.
Une allocution républicaine qui sera également scrutée du côté des politiques qui se mettent en ordre de bataille pour les européennes. Nicolas Dupont-Aignan, pour Debout la France, appelle à maintenir la pression sur le gouvernement. François Bayrou invite quant à lui à retrouver l'unité du pays. Le président du Modem, allié de la majorité, a exprimé ses vœux par communiqué ce matin. Il évoque le besoin d'un nouveau modèle de société, plus humain, moins dépendant des forces économiques et de l'argent. Chez les Républicains, le chef de l'État devra rassurer sur le prélèvement de l'impôt à la source, mais aussi
faire preuve d'un peu d'empathie, reconnaître aussi quelques-unes de ses erreurs sans trop être larmoyant et s'apitoyer, parce qu'un président ne doit pas non plus s'apitoyer.
Quant aux insoumis, ils disent tout simplement ne rien attendre d'Emmanuel Macron. Selon le député Michel Larive, il est clair que le chef de l'État ne compte pas infléchir ses réformes.
Michel Larive, que vous retrouverez dans l'émission spéciale qui suivra les vœux présidentiels ce soir sur France Culture, émission présentée par Stanislas Vazak. Les gilets jaunes, pour certains, résolus à se faire entendre, vous l'avez dit Anne, dès ce soir sur les Champs-Élysées. Et même si la mobilisation a fortement décru ces derniers jours à Paris en région, la perspective d'un nouvel an sous haute surveillance a donné un tour particulier à la visite du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner aux pompiers de Paris. Christophe Richert.
Trois craintes de la part du ministre de l'Intérieur. L'acte terroriste isolé, les violences urbaines et cette année la présence de gilets jaunes. Christophe Castaner met en garde les gilets jaunes qui joueront au chat et à la souris avec les forces de l'ordre.
Je le dis très clairement, celles et ceux qui ce soir obligeront nos forces de l'ordre à se déplacer par exemple du périmètre des Champs-Élysées où près de 300 000 personnes sont attendues et doivent être sécurisées, prendront le risque de menacer la sécurité de ceux qui viendront faire la fête, comme traditionnellement nous le faisons à Paris sur les Champs-Élysées.
Une menace que le commandant Gabriel Plus relativise, on sait intervenir, dit-il en substance.
Il s'agit de faire face à ces possibles débordements, ces mouvements de panique aussi liés à ces grands rassemblements dont nous avons l'expérience, hein, la COP21, le foot et puis le 31 décembre. Ce n'est pas notre premier 31 décembre. Et puis effectivement, cette menace terroriste latente. Habituellement, c'est quasiment 2000 sapeurs-pompiers de présents sur Paris et la petite couronne. C'est quasiment 500 pompiers mobilisés prêt à répondre à cette menace particulière.
L'année dernière, près de 140 000 forces de l'ordre, policiers, gendarmes, militaires ou pompiers, étaient mobilisées sur tout le territoire. Ce soir, elles seront presque 148 000.
L'année 2018 aura été la moins meurtrière depuis le début du conflit en Syrie au printemps 2011. Impossible pour autant de se réjouir du constat dressé par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 20 000 personnes sont mortes au cours des 12 derniers mois, ce qui livre une nouvelle fois la dimension d'un conflit qui a déjà fait plus de 360 000 morts, jeté des millions de Syriens sur la route de l'exil, mais qui a pris cette année un nouveau tournant, Christian Chesneau.
2018 restera comme l'année qui a consacré la victoire de Bachar al-Assad. Au printemps, son armée reprend le contrôle de la Routa, cette zone semi-urbaine à l'est de Damas, bastion de l'insurrection. La capitale est totalement reconquise par le pouvoir syrien au prix de la mort de plus de 1700 civils tués dans les combats. Quelques semaines plus tard, la reprise de Deraa dans le sud permet à Damas de rouvrir le poste frontalier avec la Jordanie. Mais surtout, 2018, c'est l'année où Donald Trump a décidé de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie, 2000 GIs, jusqu'à la engager aux côtés des Kurdes contre les djihadistes de Daesh. Une divine surprise pour Damas. La Maison Blanche acte en fait le protectorat russe sur le pays. L'autre bonne nouvelle pour Bachar al-Assad, c'est le retour des pays arabes. On se souvient que la Syrie avait été mise au ban de la Ligue arabe en novembre 2011. Sa réintégration dans l'organisation panarabe est aujourd'hui clairement sur la table. Pour la première fois depuis le début du conflit, un chef d'État arabe, en l'occurrence le Soudanais Omar el-Béchir, rend visite à Bachar al-Assad qui voit son isolement diplomatique se disloquer, comme en témoigne la réouverture de l'ambassade des Émirats Arabes Unis à Damas, qui devrait être prochainement suivie de celle de Bahreïn. Avec l'appui des Russes, maîtres du jeu militaire et diplomatique, les pays du Golfe sont aujourd'hui prêts à sortir leur carnet de chèques pour financer une partie de la reconstruction de la Syrie afin de contrer l'influence de l'Iran au Levant, quitte à maintenir Bachar al-Assad au pouvoir.
Merci Christian Chesneau. Le Burkina Faso vient de décréter l'état d'urgence dans plusieurs provinces du pays, confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus meurtrières de la part des mouvements djihadistes. Des violences que les forces gouvernementales semblent incapables d'enrayer. La semaine dernière encore, 10 gendarmes ont été tués dans une embuscade au nord-ouest de la capitale et le président burkinabé a réuni aujourd'hui un conseil de sécurité extraordinaire. Fiona Mogadam.
Effectivement, il a pris la décision de cet état d'urgence après la réunion d'un conseil des ministres extraordinaire. L'état d'urgence est décrété dans plusieurs provinces de 7 régions sur les 13 que compte le Burkina, essentiellement dans le nord et l'est, là où la situation est la plus préoccupante, et quelques régions de l'ouest. Le gouvernement burkinabé entend ainsi assurer la lutte contre le terrorisme et ramener la quiétude au sein des populations. Les forces de défense et de sécurité vont être réorganisées, un meilleur maillage du territoire mis en place. Les attaques ont été nombreuses ces derniers jours. Il y y a eu donc ces 10 gendarmes tués jeudi dernier. La veille, c'est un policier qui a été abattu par des individus armés dans un commissariat. Puis il y a 10 jours, 3 personnes, dont 2 élus locaux, sont mortes après avoir été enlevées sans doute par des djihadistes. Toutes ces attaques dans le nord, c'est fréquent depuis 3 ans à la frontière avec le Mali et le Niger. Mais de plus en plus, les djihadistes sont présents à l'est, ce qui en fait aujourd'hui la 2e grande zone d'insécurité dans le pays. Ces attaques ont fait plus de 270 morts depuis 2015. 600 écoles sont fermées au Burkina. Il y a urgence à déclarer il y a quelques jours le président burkinabé lorsque le Burkina Faso a signé un accord de coopération militaire avec la France pour lutter contre cette recrudescence du terrorisme.
La République démocratique du Congo, toujours là en attente des premiers résultats de la présidentielle. Il devrait intervenir la semaine prochaine, mais la tension monte à Kinshasa. Les liaisons internet ont été suspendues pour une durée indéterminée. La conférence des évêques dénonce des anomalies dans le comptage des voix entre les 2 principaux candidats à la succession de Joseph Kabila et qui revendiquent d'ores et déjà l'un et l'autre la victoire. C'est l'heure des vœux aussi en Allemagne pour Angela Merkel. Le discours de la chancelière débute en ce moment même à Berlin, mais on connaît déjà les grandes lignes, avec d'abord le constat que les anciennes certitudes autour de la coopération internationale se trouvent désormais mises à l'épreuve. Angela Merkel affirme l'intention de l'Allemagne de prendre plus de responsabilités dans le monde. Ludovic Piétenu.
Les grandes questions se règlent à plusieurs. Angela Merkel rappelle son attachement au multilatéralisme et compte bien œuvrer pour, à partir de demain et pour 2 ans, l'Allemagne va s'installer à la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Faut-il s'attendre à ce que Berlin prenne plus de place dans le jeu diplomatique mondial ? Nous devons prendre davantage nos responsabilités, déclare en tout cas ce soir la chancelière. Elle souligne 3 priorités, je la cite, le problème décisif du changement climatique, le contrôle et la régulation des migrations, et la lutte contre le terrorisme international. Elle donne déjà quelques garanties en annonçant l'augmentation de l'aide humanitaire et de l'aide au développement, notamment en Afrique. Intéressant aussi et révélateur de ce qui pose souci en Allemagne, dans les milieux économiques notamment, son inquiétude de la sortie programmée de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ses vœux sont enfin l'occasion d'une forme de mea culpa. Sur le plan intérieur, Angela Merkel reconnaît que le début de son 4e mandat cette année n'a pas été très glorieux, et comme elle aime à le faire, cache rapidement ce piteux constat en préférant rappeler les valeurs qu'elle défend avec constance depuis 2005 et qui, dit-elle, ont rendu notre pays plus fort, l'ouverture, la tolérance et le respect.
340 millions de citoyens européens partagent aujourd'hui la même monnaie avec ce premier acte concret qui remonte 20 ans en arrière, au 1er janvier 2002, le jour où le cours de l'euro a été fixé par rapport au franc, où l'euro est devenu la monnaie d'usage dans les entreprises et les circuits financiers. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Alors pour certains de ces artisans, l'un des objectifs de la monnaie commune visait à concurrencer le dollar comme monnaie internationale. 20 ans plus tard, le bilan apparaît quelque peu mitigé.
Oui, alors la création de l'euro a quand même changé la donne. Avant, il y avait le dollar, point. Maintenant, il y a le dollar et un peu l'euro. Aujourd'hui, 20% des réserves des banques centrales dans le monde sont libellées en euros. Cela prouve que l'euro passe pour une monnaie stable et solide, mais cette confiance est quand même érodée après la crise de la zone euro en 2011. Et aujourd'hui, encore 62% des réserves sont libellées en dollars. Côté transactions, 36% des paiements dans le monde sont en euros, mais c'est lié au poids économique des échanges commerciaux dans l'Union européenne. La Pologne, la Roumanie, la République tchèque notamment utilisent l'euro pour leurs échanges internationaux, même si ces pays n'en font pas partie. Mais en dehors de l'Union européenne, c'est beaucoup plus rare. Et même si des pays comme Cuba, la Corée du Nord ou l'Iran ont pu décréter un jour que leurs échanges ne seraient plus qu'en euros, dans les faits, le dollar n'a pas été détrôné, ni dans ces pays, ni ailleurs. Les Airbus sont vendus en dollars, l'énergie importée en Europe depuis la Russie par exemple est facturé aussi essentiellement en dollars. Aucune banque européenne ne peut survivre sans faire de transactions en dollars, ce qui pose un problème politique à l'Union européenne. On l'a vu avec le rétablissement des sanctions américaines sur l'Iran. L'Union européenne a imaginé un système de troc compliqué pour contourner ces sanctions. Preuve que 20 ans après sa création, l'euro n'est toujours pas un rempart contre le roi dollar, et ce, même pour les Européens eux-mêmes.
Alors, comment expliquer cette portée limitée de l'euro à l'international par rapport au dollar ? Eh bien, sans doute en partie à cause de l'impossibilité pour la zone euro d'émettre de la dette commune. C'est en tout cas l'analyse de Philippe Jürgensen, haut fonctionnaire à Bercy au moment de la création de l'euro et aujourd'hui président honoraire de la Ligue européenne de coopération économique.
La dette américaine, c'est une dette fédérale. Alors nous, c'est comme s'il y avait une dette du Wisconsin, une dette du Massachusetts, une dette de la Californie, et pas de dette commune. Pour ceux qui veulent placer en euros, c'est quand même beaucoup moins commode et beaucoup moins sûr. Alors, on a essayé de progresser dans cette voie, on a fait beaucoup de choses depuis la crise avec le mécanisme européen de stabilité, etc. Enfin, c'est quand même pas la même chose qu'une dette fédérale directement émise par l'État fédéral européen.
Qui bloque aujourd'hui le parachèvement de l'euro, d'après vous ?
Globalement, les États du Nord, essentiellement l'Allemagne et les Pays-Bas, la Finlande, enfin un certain nombre de pays scandinaves, qui ne veulent pas ce qu'ils appellent une union de transfert. Dans leur esprit, ça veut dire que les gens sages du Nord passeraient leur temps à financer les bêtises des pays du Sud. Alors vous pensez bien qu'un épisode comme celui des Gilets jaunes ne fait que les exciter encore plus dans cette idée. Avec les Gilets jaunes, on vient de décider de dépenser 10 milliards de plus. On les a pas, on les emprunte. C'est pour ça qu'ils résistent complètement à l'idée d'un budget commun de la zone euro. Enfin, on a fini par en faire un petit, mais avec beaucoup de résistance de leur part. Et ils résistent complètement aussi à l'idée d'une dette fédérale.
Un dossier signé Marie Viennot. La France et l'Angleterre vont mettre en place un plan d'action renforcé pour dissuader les migrants de traverser la Manche à bord de petites embarcations. Depuis le 23 décembre dernier, près d'une centaine de personnes ont été secourues en mer par les autorités françaises ou britanniques, alors qu'hier, dans une même tribune, plusieurs associations accusaient l'État de mise en danger délibérée des migrants. Ces associations critiquent aussi les modalités de ce plan d'action, Marjorie Péjac.
Et ce qui fait bondir les associations, c'est l'idée d'accroître le nombre de patrouilles de surveillance françaises et britanniques, notamment en mer, la nuit, quand les migrants essaient de traverser la Manche. Une mesure inefficace, selon Christian Salomé. Il est président de l'Auberge des migrants à Calais.
Un petit bateau au ras des vagues, dans le noir, n'est pas détectable par les radars, tout simplement parce qu'il est à la hauteur des vagues. La nuit, s'il n'y a pas de lumière, personne ne voit, même les bateaux qui passent à proximité, il est absolument invisible. Donc, quelle que soit l'intensité des recherches pour localiser des petits bateaux, tout simplement, techniquement, ce n'est pas possible.
Pas valable non plus l'idée du plan franco-britannique de sensibiliser les migrants aux dangers de la mer. Pour Christian Salomé, ça ne les empêchera pas de continuer à vouloir rejoindre l'Angleterre.
J'ai rencontré des gens qui ont vu leur frère tomber d'un bateau et décéder en Méditerranée. Ils savent à quel point la mer est dangereuse. On essaie de les décourager d'aller en Angleterre, mais on ne leur propose rien d'autre sur le continent. On est face à des gens dont on détruit les tentes toutes les nuits, toutes les 48 heures, en disant « allez ailleurs », on va les pousser à traverser, et en même temps, on distribue un prospectus en disant « attention, c'est dangereux ». C'est complètement incohérent ce qui se passe.
Et actuellement, entre 500 et 600 migrants errent dans les rues de Calais, environ 250 à Grande-Synthe.
La ville de Grande-Synthe, où le maire vient de rouvrir un gymnase municipal pour héberger des migrants, il accueille depuis vendredi quelques 180 personnes, en majorité des Kurdes irakiens, et il devrait rester ouvert jusqu'au printemps prochain. À l'heure des bilans de fin d'année, celui du cinéma marque légèrement le pas en France, juste au-dessus de la barre symbolique des 200 millions d'entrées, mais en baisse depuis la deuxième année consécutive, avec 9 millions de spectateurs de moins qu'en 2017. Cela dit, 2018 s'affiche comme un très bon cru pour les productions françaises, dont les comédies populaires montrent les muscles face aux studios américains et aux super-héros de Marvel, Cécile de Kervas-Doué.
Oui, cumulant plus de 77 millions d'entrées en 2018, les films français se sont arrogés près de 40% des parts de marché dans les cinémas en France. C'est un point de plus que l'année dernière et ce succès est porté principalement par 5 films avec, dans l'ordre, les 3 premiers, Les Tuches 3 d'Olivier Barou qui cumule 5,7 millions d'entrées, La Ch'tite Famille de Danny Boone, 5,6 millions d'entrées, Le Grand Bain de Gilles Lelouch, 4,2 millions d'entrées. Alors, pas de quoi détrôner néanmoins les films américains qui ont toujours le plus de succès dans les salles françaises puisque le film le plus vu cette année, Les Dindes Indestructibles 2 de Brad Bird, a cumulé 5,8 millions d'entrées alors qu'Avenger Infinity War d'Anthony et Joe Russo dépassait lui les 5 millions d'entrées. Le CNC pointe néanmoins que le marché des films américains se tasse en France puisque leur part de marché tombe à 45% contre 50% l'année dernière, sauf que ce tassement va aussi avec le tassement général de la fréquentation des 6000 salles françaises. Et c'est l'envers du bilan du CNC. 2018 affiche de bons résultats, oui, pour les films français, mais pas forcément pour le cinéma, puisque les salles ont accueilli, vous l'avez dit, 9 millions de spectateurs en moins par rapport à l'année dernière et 17 millions de spectateurs en moins en 6 ans. Pour l'expliquer, le CNC invoque cette année la Coupe du Monde, les grèves à la SNCF, la canicule ou les gilets jaunes qui détourneraient les Français des salles obscures. Mais c'est oublié un peu vite la concurrence de la plateforme de films à la demande Netflix, dont le nombre d'abonnés, qui atteint déjà 3,5 millions en France, pourrait dépasser les 8 millions d'ici un an.
Merci Cécile de Kervas-Doué. La météo du 1er janvier avec un temps nuageux sur la moitié nord, ensoleillé au sud, des températures qui varient en conséquence de moins 2 à 8 degrés pour les matinales, de 4 à 16 pour les maximales dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Brun.